Dans les cours précédents, on a expliqué longuement comment il y a des gens qui font l'erreur de penser que le tzimtzoum, la contraction d'Akadosh Baruch Hu, est au sens littéral, dans le sens que Dieu se trouverait moins sur notre terre qu'il était présent avant. C'est une erreur que beaucoup de gens font. Il y en a qui vont beaucoup plus loin dans cette erreur, qui pensent carrément que Dieu a abandonné la terre et que la terre est abandonnée à des cas qui peuvent arriver. Il y a des gens qui pensent comme ça. Vous posez la question à une personne, vous dites, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe en Chine? Qu'est-ce que tu penses? C'est un drame. Des millions de personnes qui sont confinées chez eux, qui ne savent pas si dans un mois ils seront là encore. C'est un drame, c'est une catastrophe.
Comment?
C'est un vrai drame ce qui se passe. Tu dis, mais alors, tu te poses une question, tu dis, d'après toi, d'où ça vient ça? Qu'est-ce qu'il va te répondre? Il va te dire, ah, c'est un virus qui s'est perdu, c'est une mutation, c'est ça, etc. Mais où est Dieu dans tout ça?
Dans le virus?
Il va savoir.
Hein, où est Dieu dans
partout.
Tout ça?
Il est partout.
Bien sûr qu'il est partout. Bien sûr qu'il est partout. Akadosh Baruch Hu est partout. Donc, dire que Dieu a abandonné la terre, c'est sûr que c'est une aberration. Dieu n'a pas abandonné la terre. La terre ne tourne pas tout seul. Ça, c'est l'erreur que certains font. Ils disent, la terre tourne toute seule. Dieu, il a créé un monde, maintenant il y a un système, il y a des gènes, il y a des microbes, il y a des mutations, et ça tourne. C'est vrai qu'un médecin n'est pas obligé de dire le mot Dieu. C'est-à-dire qu'il peut t'expliquer comment le virus il a muté, comment ça arrive ici, comment ça arrive ça, et comment on l'arrête, et comment... Ils sont en train de trouver même un vaccin pour ça. D'accord?
Ils vont trouver ça.
Ils vont trouver.
Israël, ils vont les
d'accord.
aider.
Ils vont trouver si tu veux. Bien sûr, ils vont trouver.
Dans les masques.
Heureusement. Pas...
Ils ont mis au coin
un masque. Tissu spécial.
Bon. Mais encore une fois,
protéger.
Dire que nous sommes à la merci d'un virus qui se balade, un juif ne peut pas parler comme ça. Un juif, il doit comprendre qu'il y a l'Emouna, qu'il y a la croyance, qu'il y a Kadosh Baruch Hu gère tout ça. Ça, c'est pas shoot. Ça, c'est pas shoot, ça. Maintenant, on va plus loin. C'est pas seulement qu'Akadosh Baruch Hu, il gère ce qui se passe dans le monde et qu'il a son mot à dire. C'est beaucoup plus que ça. C'est que tout ce qui se passe dans le monde, au centième près, à la milliseconde près,
c'est Dieu.
Est fait par Akadosh Baruch Hu parce que c'est Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est plus compliqué. Ça, il y a des gens qui te disent, oh, je comprends que Dieu il gère le monde, ça ne me dérange pas. Mais bon, je ne suis pas d'accord avec ces détails, je ne suis pas d'accord. Et c'est ça ce qu'a dit le Morazaka la semaine dernière. Il a dit que c'est une erreur. C'est une erreur de ne pas penser comme ça. Il a démontré comment c'est une erreur. Pour ceux qui veulent, ils reviendront au cours de la semaine dernière. Dans le cours d'aujourd'hui, on va rentrer sur des grandes notions de chassidout que toute personne qui a étudié la Kabbalah les rencontre, mais on va les décortiquer aujourd'hui. En fait, quand on veut exprimer la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, en général, dans la Kabbalah, il y a trois termes qu'on va décortiquer aujourd'hui. Et ceux qui ne sont pas là, pour l'instant, ils ratent. Parce que vraiment, c'est passionnant. D'accord ? Donc, premièrement, trois niveaux. Toujours trois niveaux. Premier niveau, ils arrivent. Premier niveau, Memalé Kol Almin. On dit que Dieu emplit tous les mondes.
Tous les mondes.
On va expliquer. Pour l'instant, je ne vous donne que l'appellation. Après, on va expliquer ce qu'elle veut dire. Deuxième niveau, Sovev Kol Almin. Dieu entoure tous les mondes. Et troisième niveau, Leitman. D'accord ? Leitman. L'être atarpe anuminé, il n'y a pas un endroit qui est vide de lui. Évidemment, quand on lit ça, on se dit, mais de quoi on parle? Comment ça fonctionne?
De toute façon, s'il dit il entoure le monde, donc il est partout.
Évidemment.
Il n'a pas besoin de dire la troisième phrase.
Donc, trois termes. Premier terme, on dit il emplit le monde. Deuxième terme, on dit il entoure le monde. Et troisième terme, on dit il n'y a pas une parcelle qui n'est pas remplie par un cadeau de jour. Comment expliquer ces trois notions? Alors, c'est très intéressant. Parce qu'on n'a pas trop l'habitude de faire ça dans le Tania. Mais là, on va se baser sur le corps humain. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser une technique très intéressante qui dit que mi besari chezeloka. Au travers de ma chair, je peux voir Dieu. Ça veut dire que Dieu a eu la gentillesse, la bonté de créer notre corps à son image. Pourquoi il a fait ça? De façon à ce que lorsqu'on veut comprendre certaines notions, il suffira d'analyser la fonction, comment fonctionne notre corps, notre âme, et ça nous aidera mieux à comprendre Akadosh Baruch Hu. Ouais. Si vous voulez, c'est les mêmes. Il a créé les mêmes mécanismes. Il aurait pu ne pas le faire. Hein. D'ailleurs, ça aurait pu être un mécanisme complètement différent. Il ne nous doit rien. Mais il était gentil avec nous. il a été gentil. Comme c'est le roi David qui nous a donné le secret. Il a dit, mais Bessari et Chézé Eloka. Au travers de ma chair, je vois Dieu. Ça veut dire qu'en analysant la façon comment fonctionne ma chair, je comprends Dieu. Ça, c'est un concept très très important. On l'a développé quelques fois, mais pas beaucoup dans le Tanya. Par exemple, quand dans la parasha cette semaine, la semaine dernière, etc., Akadosh Baruch Hu dit, je vais vous montrer ma main. La main de Dieu qui va nous libérer en Égypte. C'est quoi la main ?
Il vous montrerait la force.
C'est quoi la main ? Alors nous, on comprend. Bon, on comprend la main, ça veut dire la force. Seulement, si tu comprends, si tu es fidèle à ce que le roi David t'a appris, que Mibessari Rezeloka, tu comprends que si Hachem t'a dit le mot à la main, c'est pas simple pour te dire la force, parce que dans ce cas-là, il t'aurait dit la force. C'est pour te dire, si tu veux comprendre comment fonctionne ma main, comment fonctionne ma force, analyse ta main. Analyse la façon de fonctionner de ta main, tes doigts, ton mouvement, etc. Bonsoir. Et avec ça, tu arriveras à comprendre comment fonctionne ma force. Etc. On parle de la tête de Dieu, on parle des yeux de Dieu, on parle des oreilles de Dieu, on parle de la bouche de Dieu. La bouche. Et ça, à chaque fois, toujours le Tani t'expliquera que c'est pourquoi on t'utilise ces idées techniques, ces idées qui sont physiques, matérielles. C'est pour te donner une possibilité de comprendre les façons de fonctionner d'Akadosh Baruch Hu en analysant ton corps. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va prendre une notion très simple. Ça va être un cours qui va être un peu plus simple que d'habitude. Dans un charéchout, c'est compliqué. Mais bon, ça va être un peu plus simple. En fait, on va analyser la relation qu'il y a entre le corps et l'âme. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est à quel point mon corps investit mon âme. Moi, je suis un être qui est composé d'un corps et d'une âme. À quel point, par exemple, mon âme se trouve dans ma main qui est en train de bouger ?
Mon âme ?
C'est une question, sérieux, ce que je pose. À quel point ? Est-ce que mon âme enveloppe mon corps ? Est-ce qu'elle rentre dans mon corps ? Est-ce que quand ma main bouge, c'est mon âme qui bouge ? Comment ça fonctionne ?
Le sang.
Et c'est très important de répondre à cette question, parce qu'encore une fois,
le sang,
si j'arrive à répondre dans le microcosme, je réponds dans le macrocosme.
Arrête.
Si j'arrive à répondre comment ça fonctionne dans mon corps, j'arriverai aussi à expliquer comment ça se passe par rapport à Kadosh Baruch Hu. Vous êtes prêts ?
Très bien.
Ok, on a le programme, on y va.
On remonte.
Allez. Alors, Vezeu Shekatou Betikunim, Vezeu Shekatou Betikunim, en haut de la page 105. C'est là ce qui est écrit dans les Tikunim. Tikunim, c'est Tikuné Zohar, c'est une section du Zohar. De Leit Atar Panouimine. Qu'il n'y a aucun endroit qui soit vide de lui. Donc là, le Zohar nous parle du troisième niveau. Rappelez-vous, niveau A, niveau B, niveau C. 1, 2, 3. Niveau 1, Dieu qui emplit le monde, on va le développer tout de suite. Niveau 2, Dieu qui entoure le monde. Et niveau 3,
il n'y a pas un endroit.
Exactement, il n'y a pas un endroit où il ne se trouve pas. Le Zohar nous dit la chose suivante, pour nous démontrer à quel point le Tzimtzum n'a causé aucune différence chez Akadosh Baruch Hu, il dit, tu dois savoir que dans l'absolu, c'est le niveau 3 qui est le vrai. Dans l'absolu, il n'y a aucune parcelle de ce monde qui est vide, qui est vide à Akadosh Baruch Hu. Et il continue. Il dit, l'aït atar panumine, l'aube ilaïn, velobe tataïn. Ni en haut, ni en bas. Ça c'est le Zohar. Maintenant dans un autre endroit du Zohar, une autre section. Beraya Memena Parashat Pinchas, dans le Raya Memena, section Pinchas, là-bas il dit, Iyu Tafis Bekola, Dieu saisit tout, Ve Leitman de Tafis Be, il n'y a rien qui ne peut le saisir. Iyu Sovev Kolalmin, ah, là il va nous rajouter les termes qui m'intéressent. Iyu Sovev Kolalmin, Dieu enveloppe, entoure tous les mondes. Ve Leitman de Nafik Yurchute les barres, et rien ne sort de son domaine. Iyu Memale Kolalmin, il emplit tous les mondes. Iou me kacher ou me yachet zina les iné, il attache et unit l'un à l'autre, il avait tata supérieur et inférieur. Mm-hmm. Bon, alors, quand tu lis un mot du Zohar, alors vous savez, quand tu lis un texte du Zohar, il faut jamais le lire en premier degré. Il faut s'arrêter.
Tu mets un autre niveau.
Là, le cours d'aujourd'hui, je sais même pas si on aura le temps de terminer dans le cours d'aujourd'hui. On va développer ces trois lignes. Tout le cours, c'est pour comprendre ces trois lignes du Zohar. Qu'est-ce que nous dit le Zohar?
Il est là, Eric, il est parti?
Qu'est-ce que nous dit le Zohar? Le Zohar nous dit comme ça. Il nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il saisit tout et rien qu'il saisit. Donc il commence directement par le niveau 3. Ensuite, niveau 2, il dit Dieu, il enveloppe tout le monde. Et niveau 3, Dieu emplit tout le monde.
Par contre, il dit rien ne sort de son domaine.
Oui. À chaque fois, il veut dire voilà, il dit Dieu attrape tout et rien ne peut l'attraper.
D'accord.
Dieu enveloppe tout et rien ne peut sortir. Il nous contrôle. Etc. Voilà. C'est comme par exemple tu as une emprise sur quelqu'un et rien ne peut sortir. Et il emplit tous les mondes et c'est lui qui attache et unit l'un à l'autre, supérieur et inférieur. Qu'est-ce qu'il raconte ?
C'est quoi le supérieur et
inférieur ? Ah oui, évidemment. Évidemment. Non mais il peut même poser la question. Mais vous me posez la question sur la dernière le deux derniers mots. Moi vous devrez me poser la question dès le départ, on n'a rien compris. Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai pas fini, hein, comme petite sucrerie. Mais l'aide courvable et de l'aide usonine, et il n'y a pas de proximité entre les quatre éléments. Parce que vous savez qu'il y a quatre éléments qui constituent notre monde. Esh, Ruach, Maim, Afar. D'accord? Le feu, le vent, l'eau et la terre. Donc il n'y a pas de proximité entre ces quatre éléments. Et la Bekutcha Berichu, seulement par le Saint béni soit-il, Kad Iou Benayou lorsqu'il est au milieu d'eux. Voilà. Fin de citation. Atkan Leshono. Fin de citation du Raïm Emena.
Coucher, hein.
Bon. C'est là que j'ai dit, bon, j'ai compris que je suis pas kabbaliste, c'est pas pour moi.
Bon, vous avez raison.
Qu'est-ce qu'il raconte? Il attrape tout et personne ne l'attrape. Il entoure tout et personne ne sort de chez lui. D'accord? Il emplit tous les mondes et il attache la pensée à la pensée, le haut et le bas. Ok. Et après, il n'y a pas de proximité entre les quatre éléments, seulement par Akadosh Baruch Hu. Ok. Alors on dit, on va expliquer, point par point, doucement, expliquer. Ok. Là, la Gemara Zaken va nous expliquer point par point parce que c'est très important. La Gemara Zaken ne veut pas nous faire du Zohar. La seule raison pour laquelle il nous explique ce Zohar, c'est pour contrer l'erreur qu'on aurait pu faire dans le cours de la semaine dernière, dans laquelle on a dit que, éventuellement, Dieu a eu le Tzimtzoum, il s'est contracté, et que maintenant on le sent plus et que maintenant il est plus là. D'accord? Bon. Ça, il veut contrer cette erreur. Il veut dire, c'est pas comme ça. Mais il faut expliquer pourquoi. Donc il fait appel au Zohar. On va développer. On y va. Au Retsono Lomar. Voilà ce qu'il veut dire. Leitman de Tafis B. Personne ne peut attraper. Ça veut dire quoi, personne ne peut attraper Dieu? Alors en français, le bon terme, c'est pas attraper, c'est saisir.
Ah.
Mais non, ça change tout, ça. D'accord? Saisir. En français aussi, on a un jeu de mots. Si enfin, je dis par exemple...
Ça peut être aussi saisi sur un plan intellectuel.
Et exactement. Oui, et voilà, exactement. Si je dis par exemple, monsieur Charles, je n'arrive pas à vous saisir.
Est-ce que tu as saisi?
Alors saisir, ça peut être dans le sens, un huissier, je ne vous souhaite pas, qui vient pour saisir un objet, s'emparer d'un objet, une saisie physique. Mais ça peut être aussi, je n'arrive pas à vous saisir, je n'arrive pas à vous comprendre. Et donc là, ça me donne une autre lecture de ce qu'a dit le Zohar. Lorsque le Zohar nous dit... Dieu attrape tout et rien ne peut l'attraper. En fait, au lieu de traduire par attraper, je vais traduire par saisir.
Est-ce que tu comprends?
Et donc là, voilà ce que voudrait dire la phrase. Urtsono Lomar, il veut dire, je suis en bas de la page 105, Leitman de Tafis B, il n'y a rien qui le saisisse, She'en Miche Itpos Be'asagat Sirlo, que rien parmi les intellects supérieurs ne peut le saisir, mais Kol Sirlo Mayoni, Be'mauto Vasmoto Shalakadosh Banchou, par la perception intellectuelle. D'accord? On peut pas comprendre l'être et l'essence de Dieu. Ça, c'est très important à comprendre ça. C'est la base. Des fois, une personne va se dire, moi, j'arrive pas à comprendre Dieu. Parce que moi, je suis les simples gens. Moi, je suis quelqu'un.
De
seconde. Mais il se dit, peut-être, les tzadikim, les gens qui sont de plus grande envergure, eux arrivent à comprendre. Peut-être, pourquoi pas? Peut-être que moi, j'arrive pas à saisir Dieu. Mais il y a des gens qui sont plus grands que moi qui, eux, arrivent à saisir. Ou bien un autre te dira, peut-être que ici, dans le monde, on est bridé par notre corps, on n'arrive pas à saisir Dieu. Mais quand on arrivera en haut après 120 ans, d'accord, imaginez Rav Shimon Bar Yochai Gan Eden maintenant, là-bas, il peut saisir. Donc ça veut dire que si tu dis ça, et c'est la même erreur que la semaine, mais dans l'autre sens, ça veut dire que tu es en train de dire que moi, je peux pas le faire, mais il y a une certaine forme quelque part, d'intelligence qui peut saisir Dieu. Maintenant, tu veux me dire, en quoi c'est un problème de parler comme ça? Et alors, si je pense comme ça, c'est une grave erreur de penser ça. Ça veut dire que tu es en train de mettre quelqu'un ou une sagesse au niveau d'Akadosh Baruch Hu. Même si toi, tu ne l'as pas. Tu dis, moi, de toute façon, je comprends pas. Mais tu dis, moi, je comprends pas, mais il y a des gens qui peuvent comprendre. Moi, je ne saisis pas, et il y a des gens qui peuvent saisir. C'est pour ça que l'Admor Zaken te dit non. Il te dit, tu ne peux pas saisir Dieu. Tu peux comprendre éventuellement, mais pas saisir. Quelle est la différence entre comprendre et saisir? Quelle est la différence si je dis je comprends ce que tu veux dire ou si je saisis ce que tu veux dire?
Saisir, c'est plus fort que comprendre.
Bien
fort,
sûr. Exactement. S'il y a deux termes en français aussi, c'est que c'est pas la même chose. Ouais, en français, je sais pas vraiment c'est quoi la nuance.
J'ai saisi.
Je vais pas dire bêtises. Mais en hébreu, je peux vous la donner.
Si je dis j'ai compris et j'ai saisi, c'est pareil.
Non. Non. C'est pas pareil.
Non, parce que comprendre, c'est comprendre, et saisir, c'est plus que comprendre.
C'est oui.
Ça veut dire que tu as acquis tu l'as intégré.
Et puis tu as regardé même qu'il y avait des nuances dans le...
Alors, justement, c'est ce qu'explique ici Edmond Razaken. Il dit, c'est quoi la différence entre comprendre et saisir? Quand tu comprends quelque chose, imaginez par exemple que j'avais un sujet qui était composé de 1000 éléments. Et moi, j'ai réussi à comprendre un élément. Je peux dire que j'ai compris un élément. Même si c'est un élément sur un milliard, ce que j'ai compris, j'ai compris. Tu me diras pas que j'ai pas compris. Donc dire que je ne peux pas comprendre du tout Dieu, c'est une erreur. On doit chercher à comprendre. Comprendre, oui. Et on va chercher à comprendre, tu vas comprendre. À 0,001%, tu vas comprendre quelque chose. Bon, mais ce que tu as compris, c'est pas faux. C'est du vrai. Par contre, tu n'as pas saisi. C'est quoi saisi? Saisi, c'est quand tu contrôles la chose. Quand tu enveloppes la chose, tu l'entoures de toutes parts, au point que, de la même façon que j'ai un objet que je saisis, que je peux le tourner dans tous les sens, je l'ai, il est dans ma main. Je le maîtrise, exactement. Il y a une maîtrise, voilà, c'est un bon mot, Razak, maîtriser. D'accord?
Saisir aussi, c'est aussi le
maître. Saisir, ça veut dire que je le tiens. Je le tiens.
Et. Ce qui n'est pas le cas de compris.
Et je le connais, je m'excuse du terme, dans les tripes, je le connais. Ça, je peux le dire pour une idée. Je peux prendre une idée, la prendre et l'entourer de tous les sens, tac! Tu sens que, tu peux la prendre dans tous les sens, tu peux la comprendre. Vous savez comment on voit ça? Quand par exemple vous demandez à des gamins qui sont à l'école, vous leur dites répète-moi une logique. Peu importe, dans le collège ou dans le rôle, répète-moi une logique. Il va te répéter la logique, dans l'ordre. Très bien. Après, tu lui demandes, tu essaies de le piéger, et tu lui demandes de faire dans le désordre. C'est-à-dire, tu lui poses la deuxième question avant la troisième, ou tu modifies tu modifies la structure. Très souvent, il est perdu. Ça veut dire quoi? Qu'il ne saisit pas le sujet. Est-ce qu'il n'a pas compris? Si, il a compris.
Mais
la preuve, c'est qu'il est capable de le répéter, il a compris. Mais il n'a pas saisi. Parce que quand tu as saisi quelque chose, tu peux le prendre de n'importe quelle angle, tu l'attrapes, il est là. Il est dans ta main, tu l'attrapes. Alors voilà. D'ailleurs, la Morazaken, dans le chapitre 5 du Tanya, ça fait un bout de temps qu'on étudie ça, il a expliqué la chance inouïe qu'on a quand on étudie la Torah. Parce que quand on étudie la Torah, on saisit à Kadosh Baruch Hu. On saisit. C'est de quoi saisir? Ça veut dire que Hachem, il t'a donné une idée. Hachem, il s'est mis dans sa Torah. Et moi, je prends la Torah, je prends une idée de la Torah et je la saisis dans mon cerveau. Donc, ça veut dire que je suis en train de saisir une partie de Dieu. On ne se rend pas compte à quel point c'est extraordinaire. Dieu, je ne peux pas le saisir. Mais Dieu, il s'est mis dans la Torah. Il m'a dit, ma Torah, tu peux la saisir. Donc, en saisissant la Torah, bien sûr, je saisis Dieu.
Une parcelle de Dieu.
Dieu. Non, il n'y a pas de parcelle. Parce que Dieu, c'est l'essence. C'est l'essence, quand tu as attrapé un peu, tu as tout attrapé. C'est comme un gène.
Oui, mais comme il est
partout. Une fois que tu l'as, t'as pas besoin qu'il soit grand ou petit. Tu l'as attrapé, c'est fini.
C'est vrai, mais comme il a dit, il est partout.
Hein?
Donc c'est forcément une
parcelle. Ah, voilà la question. C'est ce que veut dire le Zohar. Le Zohar te dit la chose suivante. Te dit, ne fais pas l'erreur. D'accord? Bonsoir. Ne fais pas l'erreur de penser. Ne fais pas l'erreur de penser. Qu'à Kadosh Baruch Hu, tu puisses le saisir, ou quand même une personne puisse le saisir, ou quand même une certaine science puisse le saisir. Par exemple, moi j'entends des fois des gens parler, ils disent, oui, quand on étudie la Gemara, on peut pas saisir Dieu, mais si on étudie la Kabbalah, là-bas on peut saisir Dieu. C'est-à-dire toujours, ils vont se référer à autre chose qui les dépasse, et vont dire, moi je peux pas, mais il y en a qui peuvent. Viens le Zohar, d'emblée, il t'annonce, avant même de commencer à discuter, il te dit, sache que c'est pas possible. Personne ne peut saisir Dieu. Comprendre, on peut essayer. 1%, 2%, 0%, tu peux comprendre. Comprendre, on peut essayer de comprendre, pas saisir. Parce que il n'y a que Dieu qui saisit et personne ne peut le saisir. Parce que si tu dis que tu le saisis quelque part, ça veut dire que
tu le maîtrises.
Tu le maîtrises, exactement. Quand je saisis une idée, ça veut dire que je peux la faire dire ce que je veux. Quand tu maîtrises une idée, tu peux la modifier dans tous les sens que tu veux. Personne ne maîtrise Dieu. Qu'on soit clair. Donc, c'est très important de comprendre ça.
Ça, c'est en français, mais en hébreu, tu le dirais comment?
Ah oui, mais attendez, c'est très important de comprendre ça. Ça veut dire que quand, par exemple, vous allez dire, quelqu'un qui va dire, je reprends l'exemple tout à l'heure, on va faire un peu avec l'actualité, quelqu'un qui va dire que Dieu est présent ici, mais en fait, les choses tournent d'elles-mêmes, d'accord? Il est en train de dire, quelque part, qu'il y a un germe qui tourne dans le monde, il y a un germe, donc naturel, qui saisit Dieu. Bah oui, c'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire qu'il y a un germe qui tourne. Et ce germe ne rend pas des comptes à Dieu. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il a envie de faire. Il veut aller là, il va là, il va aller là, il va là. C'est une grave erreur de penser ça. Ça veut dire que tu es en train de dire que qu'il y a des éléments que Dieu n'arrive pas à saisir. Or, aucun élément n'est insaisissable par Dieu. Exactement. Aucun élément n'est insaisissable par Dieu. Et d'un autre côté, aucun élément ne peut saisir Dieu. Donc ça va dans les deux sens. Rien ne peut saisir Dieu et rien n'est insaisissable par Dieu. Vous voyez la dualité?
Et tout à l'heure, vous avez dit qu'entre un texte Torah. De la Torah, on saisit
non,
Dieu.
Ça, c'est dans le cadre de ce qu'Hachem a prévu. Hachem, il a dit, moi, je me mets dans la Torah, non, et par le texte de la Torah, je peux m'attraper. Effectivement, parce qu'il l'a décidé. Effectivement, vous avez raison. Mais moi, je ne peux pas saisir Dieu. Je peux saisir la Chorma de Dieu, la Torah de Dieu, parce que ce qu'il m'a donné. Ça, il m'a donné une halakha, je peux étudier cette halakha. Elle est dans ma tête, c'est fini, elle est là. Je l'enveloppe, elle est partout dans ma tête. Mais est-ce que je peux dire que je saisis Dieu? Dieu est insaisissable. Attrape-moi, comme on dit, si tu peux. Tu peux pas attraper Hachem. Lui peut t'attraper, toi tu peux pas l'attraper.
Alors je saisis sa connaissance à non. travers la Torah.
Tu saisis ce qu'il a voulu que tu saisisses.
Alors, donc il a différentes manières de se faire, comment dire, apprécier ou... Parce que là, pour le coup, là, tu parles de l'actualité.
Ah, très bien. Alors voilà, on va arriver tout de suite.
C'est-à-dire pendant longtemps, je vous ai laissé.
Non.
J'ai
très bonne question.
Là, aujourd'hui, je viens, boum, j'envoie juste un petit microbe. Et là, subitement, le genre... Ah.
Là, on n'a pas encore donné... Bon, le microbe, c'est un exemple.
Non, mais bien sûr.
On a vu ça finir.
Là, ça interpelle tout le monde, pour le coup.
Quoi?
Ça interpelle tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? Qui c'est? Pourquoi? Nanana.
C'est pourquoi ça interpelle? Ça interpelle qui? Vous êtes interpellé par ça?
Pour l'instant, non. Pas pour moi. Il n'y a pas de problème. On est à Imouna, c'est pas un souci.
Ça nous protège.
Les gens, là, ils s'excitent partout.
C'est un film en France.
Comment?
C'est un film en France.
Non, j'entends bien.
C'est nul. Non, faut pas s'inquiéter. Faut pas prendre un psycho.
Non, pas du tout. Non. Ce que je veux dire pas, c'est que là, Dieu, c'est. Puisque tu as dit Dieu est partout.
Donc Michel, tout seul. Michel, combien d'êtres humains on est en France?
D'êtres humains?
Oui, d'êtres humains.
67 millions. 67 millions.
Très bien. Il y a eu combien de cas décelés?
3. 3, ils ont dit officiellement.
Le ratio de 3 à 67 millions, c'est combien? C'est zéro. Statistiquement, c'est nul.
La grippe normale, elle fait encore plus de dégâts.
Exactement. Voilà. Donc faut pas.
Normal.
Il faut faire attention, il faut suivre les consignes, mais il ne faut pas non plus.
Ah bon?
Ah oui?
La chaleur, il y a quelques années, elle a fait des centaines de.
Bon, allez, très vrai. Donc il faut vous inquiéter. D'un autre côté, non, mais d'un autre côté, non, d'un autre côté, comme je disais, Shabbat.
On parle beaucoup.
Non, c'est pas ça. C'est qu'on a une grande pensée pour ces gens-là, que c'est, on peut pas s'empêcher de se mettre à leur place. C'est-à-dire, imagine-toi quelqu'un qui est là,
quand tu vois les images qui circulent, quand tu manges du rat, quand tu manges du serpent, quand tu manges du chien et du chat.
Ça vient de là. Hein,
je sais, ça vient de là. Non, mais c'est ça qui circule aussi. Faut le savoir.
Comme c'est un pays de Abou Dazara, donc voilà, on a tout compris. Bon.
Ah, c'est bon, vas-y, il avait le comptable de Dieu. Lui. Allez, vas-y, Dieu il peut envoyer, vas-y, tu 50 millions.
Non.
Mais qu'est-ce que tu racontes?
Non, ça n'a rien à voir avec ça.
Pas du tout. T'as le comptable de Dieu. Enfin, je parle pour moi en tout cas. Dieu il sait ce qu'il fait, et bon.
Ouais, c'est comme si les gens pendant la Shoah ils avaient dit, c'est normal.
Oui, c'est plus grave, oui, c'est un.
Michel.
T'as rien fait, les Chinois? Ils m'ont rien fait. Ils méritent de vivre comme moi.
Ils sont super sympas, ils sont super
sympas. Ouais,
la pomme est très bonne. Goûte, goûte. Tu vas aimer.
Ce matin, j'ai dit à quelqu'un, je lui ai dit, t'inquiète pas, le virus, il vient de Chine, mais c'est made in China, ça va pas tenir. Alors il m'a dit, ah non, les Chinois, ils savent faire aujourd'hui. Pour la petite blague.
Même le virus, c'est de la mauvaise gamme.
Bon, on continue. Alors.
Alors, Dieu.
Donc, Michel a posé une bonne question. Il a dit, dans ce cas-là, on aimerait comprendre quelle est la relation que nous avons avec Hachem. Bonsoir. Tu me dis que, on ne peut pas le saisir, il est insaisissable. Ok, dans ce cas-là, il y a zéro communication. Alors, concrètement, quelle communication j'ai avec lui? Vous comprenez, si tu me dis dès le départ, voilà, on va faire une petite blague. D'accord? Si tu dis par exemple, on dit voilà, monsieur et madame, si tu dis d'emblée, tu dis écoute, jamais tu pourras comprendre ce qu'elle te dit. Tu pourras jamais comprendre ta femme. D'accord? Oh, si quelqu'un dit ça, c'est faux à mon avis, mais si quelqu'un dit ça, jamais tu pourras comprendre. Ok? Alors. Ok, j'ai compris. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de communication. Alors, quelle communication j'ai avec lui? Quelle communication? Il faut une bonne communication. Comment ça fonctionne?
À travers ce qu'il nous a légué.
Oui.
La Torah.
Alors, quelle communication? Mais Malé, Sobev, comment ça fonctionne? Ok? Je vais expliquer tout de suite. Alors, Urtsono Lomar. Allez, on reprend page 105 en bas de la page. Deux paragraphes avant la fin. Urtsono Lomar. Lorsqu'on dit que Leitman est ta fils B, il n'y a rien qui le saisisse, ça signifie que chez N. Michel Post, Basagat Sichlo, que rien ne puisse saisir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, de son intellect, mais Kol Sichlim Elyonim, parmi tous les intellects suprêmes qui existent, c'est-à-dire, imagine-toi l'intellect le plus suprême qui existe, le plus grand tzaddik au monde qui étudie la Kabbalah, etc. Personne. Personne ne peut saisir même Auto Batsumdo chez la Kadosh Baruch Hu. Personne ne peut saisir l'être et l'essence de la Kadosh Baruch Hu. On peut saisir l'expression de Dieu, pas son être et son essence. Vous me suivez? Tu peux saisir son expression, par exemple. Imaginez, je vais donner un exemple humain. Imaginez par exemple quelqu'un qui est là, qui vous fait un sourire. Vous pouvez saisir son expression. Vous pouvez saisir que s'il fait un sourire, ça veut dire qu'il est,
il est heureux,
il est content. Mais est-ce qu'une personne qui se fait un sourire est forcément heureux? Non. T'en sais rien. Parce que là, tu touches à son essence. Moi, je ne sais pas s'il est heureux au fond de lui. Je sais qu'il a l'expression d'un homme heureux.
Une façade, justement.
Mais peut-être qu'il a appris à cacher ses sentiments ou à montrer autre chose et qu'au fond de lui, il est malheureux. Qu'est-ce que tu en sais? Rien qui veut dire oui, mais on sait voir l'expression du visage. Tu sais voir ce qu'on a envie de te laisser voir.
Il y a aussi le rire jaune.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de la même façon pour un Kadosh Baruch Hu, l'expression d'un Kadosh Baruch Hu, tu peux la saisir. Tu peux voir comment Dieu s'exprime. Quand Dieu il envoie, par exemple, une bracha, tu sens qu'il a montré la bonté. Quand Dieu il envoie un problème, tu sens qu'il a envoyé de la rigueur. Tu sens. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que tu as saisi? Non, t'as pas saisi. T'as saisi l'expression. Mais t'as pas saisi son essence. Tu sais pas qui il est. Tu sais pas ce qui est derrière. Et tu pourras jamais le saisir. Et personne ne pourra jamais le saisir. Même le Mashiach en personne. Même Moshe Rabbeinu. C'est ça la fameuse histoire. Lorsque Moshe Rabbeinu, on l'a vu dans la paracha il y a deux semaines. Moshe Rabbeinu, il était au buisson. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a dit, après il a fait une autre fois aussi, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a dit, je veux voir ta face. De quoi voir la face? On dit panim en hébreu,
panim,
ouais. Ça veut dire le mot pnim, ce qui est à l'intérieur. Parce que c'est la partie la plus expressive d'une personne. Quand tu vois le dos de quelqu'un, t'as du mal à savoir s'il est bien, s'il est pas bien. Tu vois un peu, il est courbé, il est pas courbé, mais c'est très difficile à voir. De dos, tu vois quelqu'un, tu vois comment il va. Tu rentres chez toi à la maison, tu vois ta femme de dos. Tu sais pas s'il y a une chenève, pas une chenève, ça. Il suffit d'un regard, d'un son, là tu voilà. Sais tout de suite, t'es fixé.
Exactement.
D'accord? Tu sais pas, t'en sais rien. Peut-être oui, peut-être pas.
Mais dans une paracha,
bon, alors de la même façon, Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit, je veux voir ton visage. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Il a dit non.
Ben, il a dit panim les panim.
Kadosh Baruch Hu, ça c'est un qui dit ça, il a dit, tu ne verras pas ma face. C'est-à-dire, tu ne verras pas ma face. Ça veut dire que non seulement tu n'arriveras pas à me saisir, mais même mon expression, il y a des limites de ce que tu pourras voir. Tu pourras pas tout voir. C'est sûr que tu pourras pas me saisir, ça y a pas de question. Même mon expression, donc mon visage, même ça, il y a des limites de ce que tu pourras voir. Tu pourras voir, on dit que voir dans le dos, ça veut dire que tu pourras faire des suppositions. Vous savez, quand il y a quelqu'un, tu le vois de dos, donc tu sais pas trop comment il est. Et donc tu vas supposer, tu vas dire, comme je le connais, que d'habitude il marche comme ci, que là il marche comme ça, donc ça veut dire que... Ça c'est des suppositions. C'est des plans sur la comète, ça, comme ils disent. Hein. C'est-à-dire, c'est des hypothèses. Quand tu vois le visage, t'es fixé en une seconde. Tu dis, bon, voilà ce qu'il veut exprimer. Quand tu vois dans le dos, tu sais pas. Pareil pour un Kadosh Baruch Hu. Les gens, ils commencent à faire des comptes. Ils disent, oh, on a compris, Dieu veut faire ci, Dieu veut faire ça. On n'a rien compris du tout. T'as rien compris du tout. À Kadosh Baruch Hu, tu sais pas ses comptes. Et même ce qu'il te montre, c'est ce qu'il a envie que tu vois. Est-ce que tu as compris? Tu l'as vu de dos.
Mais il paraît qu'il
et encore, il faut être au niveau de Moshe pour voir de dos.
Il l'aurait vu de dos avec le talit et le téfilin.
Oui, c'est une image, oui, bien sûr. Oui.
Ah, c'est une image.
Le nœud de téfilin.
Donc,
oui.
Ça veut dire que Dieu est un homme.
Ah.
Ben oui, les femmes, ils ne mettent pas téfilin, ils ne mettent pas talit.
Ah, vous voulez dire un homme, pas une femme.
Possible,
ah oui, pas mal.
Si
non.
Ah,
non.
Ah oui.
Ah, oui, et pourquoi il est pas interdit aux femmes de mettre les téfilines?
Ce que je viens de dire.
Attention, hein, c'est ceux qui disent qu'il y a un homme qui est parti avec un homme qui est parti avec une femme, qu'il y a un dieu qui est parti avec une femme, c'est compliqué, hein, ça a donné des religions pas de chez nous. Attention.
Ah, non, il a eu.
Non, ça. il est pas parti avec une femme.
Non, c'est vrai que chaque fois qu'on parle de Dieu, c'est une question. Une fois, une femme a posé cette question. C'est une bonne question.
Masculin, femme.
Chaque fois qu'on parle de Dieu,
masculin.
On parle au masculin. Mmh. Vous verrez jamais, on parle jamais de Dieu au féminin. Mmh. Jamais.
Si des fois on dit l'ach.
Non, jamais.
Shelach, etc.
Non.
Dans la Torah.
Parce que nous,
quand on parle à un homme, des fois par exemple quand Dieu parle à Moshe Rabbeinu, des fois il lui parle au féminin. Quand il parle au féminin, ça exprime une faiblesse. Ça exprime une faiblesse, c'est-à-dire ça exprime que Moshe Rabbeinu, il a à ce moment-là une faculté plus féminine que masculine. Mais jamais on a parlé à Dieu au féminin. Ça n'existe pas, on ne parle pas à Dieu au féminin. Pourquoi? C'est une question.
Alors donc ça confirme ce que je viens de dire. Talit et téfiline, donc c'est un homme.
Mais non, il n'y a pas de.
Et pourquoi une femme n'a pas mis talit et téfiline?
Non.
Ah bon?
Non.
Vous êtes sûr?
Ben non.
Si, il y avait des
éléments. Non, après, attends, un problème.
Non, c'est pas ça. Moi, ce qui me dérange, c'est vrai, c'est la fin des formules. C'est une bonne question. Il y a des gens qui vont très loin, ils vont dire, ils vont parler de misogyne, etc. Enfin, il y a des gens qui aujourd'hui qui posent des questions. Il y a des réponses, évidemment. Hein. Bon, au prochain, il y a des réponses, mais. Mais hein. Non, c'est des questions.
Il peut pas avoir.
Il y a deux catégories de questions. Il y a des questions. Il y a une personne, des fois des gens qui viennent à des cours et que d'emblée il a décidé que la Torah ou elle a décidé que la Torah est misogyne. Il veut juste te prouver son point de vue.
Il y en a d'autres, pourquoi ils ont dit
ça? C'est difficile à discuter avec des gens comme ça. Il est déjà venu avec un point de vue, tu peux pas discuter avec lui. Il y en a d'autres qui viennent, qui ont des questions. Une vraie question, il veut comprendre. Ça, tu peux discuter. Et il y a des points que tu peux dire, ça, je n'ai pas compris. Tu as le droit. Et des fois, ça, je connais pas.
Tu vois la descendance des enfants d'Abraham, quand on peut la citer, il a dit Aaron et Moshe. On ne cite pas Myriam. C'est vrai, c'est pas
vrai. Oui, c'est vrai.
Et pourtant, elle est bien présente.
Bon, très vrai.
C'est comme on dit aussi Maguen David. Pourquoi on ne dit pas Maguen Abraham Isaac? Magen Abraham, pourquoi on ne dit pas Abraham, Isaac, Yaakov? On dit Magen Abraham, mais on ne dit pas Isaac, Yaakov. Alors que dans les autres prières, on dit Abraham, Isaac, Yaakov.
Moi, j'ai une autre question à vous poser. Allez, si je suis dans les questions.
C'est la Benita qui vous a envoyé ce soir.
Hein ouais,
qu'est-ce qu'elle m'a envoyé?
Les questions.
Ah non.
J'ai une autre question à vous poser. Allez, on refait la parenthèse. Pourquoi on dit Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov?
Voilà.
Pourquoi on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Yitzhak, Dieu de Yaakov?
Attendez,
écoutez ma question. J'ai pas posé la question.
Ah.
On aurait dû dire Dieu d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov. Pas Dieu d'Abraham, Dieu d'Yitzhak, Dieu de Yaakov. C'est quand tu dis cette phrase, exactement, t'as l'impression qu'il y a trois dieux. Alors prends la phrase comme ça.
Pour chacun d'entre eux, il y a une spécificité.
Pareil, dans la paracha la semaine dernière, Varasha Vaera, comment commence la paracha? Commence Vaera, donc je suis apparu, enfin ça se dit pas trop en français, mais c'est le terme, je suis apparu, El Avraham, El Yitzhak, Vel Yaakov, A Avraham, A Yitzhak et A Yaakov. On aurait dû dire plus simple, A Avraham, Yitzhak et Yaakov. A Avraham, A Yitzhak, A Yaakov. A. Dieu d'Abraham, 3, Dieu d'Yitzhak, Dieu de Jacob. Pourquoi? C'est quoi la réponse?
Alors, trois images, alors.
Pourquoi?
De la même façon.
Les gens, c'est le même Dieu.
De la même façon.
Parce que chacun des patriarches a développé sa singularité, son approche.
Voilà.
Des fois, quand tu es le fils d'eux, ou le petit-fils d'eux, t'as pas besoin de développer ton approche. Parce que t'as un grand-père qui t'a déjà un illustre grand-père ou un illustre père. Donc, t'es bien, déjà. Donc, on aurait pu, quand on dit à Yitzhak, qui es-tu? On aurait pu dire, je suis le fils d'Abraham. C'est déjà extraordinaire d'être le fils d'Abraham, les enfants d'Abraham. Hein, voilà. Ouais. C'est déjà pas mal d'être un enfant d'Abraham. Yitzhak dit non, moi je suis pas le fils d'Abraham, je suis Yitzhak. Jacob il a dit, moi je suis pas le fils de Yitzhak et le petit-fils d'Abraham.
Je suis pas que.
Non mais c'est pas je suis pas que, c'est pas ce qui va me définir. Ouais. Je ne suis pas ça. Ma définition n'est pas simplement je suis le petit-fils de ou je suis le fils de. C'est bien, ça me donne des forces, mais c'est pas ça ce qui me définit.
Ça veut dire
ce qui me définit, moi, c'est que moi, c'est moi et je développe ma singularité. C'est ça la réponse.
On se fait un prénom.
Bon,
on fait pas
allez, on refait la parenthèse. Alors revenons à notre histoire. On a dit, moi, je peux saisir Hachem. Non, pardon. Oh, attention. Hachem peut me saisir. Et
moi non.
Mais moi, je peux pas le saisir. Ok. Rien n'est insaisissable par Hachem, mais d'un autre côté, rien ne peut saisir Hachem. Dans les deux sens. Ok. On continue. Comment je tout petit kounin, comme c'est écrit dans Tikkuné Zohar, stima dechol stimin, que Dieu est caché de tous ceux qui sont cachés. Veleit marchavat fils abarklel, et aucune pensée ne peut te saisir. Alors, c'est intéressant comment le Tikkuné Zohar, il a eu cette idée. Il dit, Dieu est caché de tous ceux qui sont cachés. Caché de tous ceux qui sont cachés. Caché.
Les mondes supérieurs.
Exactement. Parce que, moi, je me dis comme ça. Je me dis, pour moi, Dieu est caché. Mais pour moi, les mondes supérieurs sont aussi cachés. Donc, je me dis, pour moi, les mondes supérieurs sont cachés. Dieu est caché. Mais certainement qu'en haut, tout est dévoilé. Oui. Dévoilé. Réponse du Zohar.
C'est pas la même.
Dieu est caché de tous ceux qui sont cachés. Pardon, c'est moi qui l'ai caché de moi, ça n'y a pas de question. Mais même de ceux qui sont cachés, même de eux, Hachem Akadosh Baruch est caché. Akadosh Baruch est insaisissable par qui que ce soit. Clair.
Donc, c'est pas la vie de Machiach qui va dévoiler.
Non. Les gens, ils disent, voilà, les gens, ils disent, par exemple, vous avez posé la question sur la Shoah. Voilà, c'est la première fois qu'il y a eu autant de dirigeants du monde entier qui sont rassemblés à Yerushalayim. Et que bon, il y a des choses qui sont passées. Bah, au Hachem, c'est très bien ce qui s'est passé avec Macron. C'est que le président de la France, il a pas voulu qu'un policier israélien rentre dans une église. C'est bien, c'est très bien, c'est passé. Non, mais c'est vrai, quand tu réfléchis, tu dis, imagine-toi, qu'est-ce qui se passe? T'as un policier israélien qui est là pour défendre son pays.
Ah oui, s'il y a droit,
on est... Attendez, il est là pour défendre son pays. Comment Hachem il peut faire ça? Rien qui veut défendre son pays et qui doit avoir, quand t'as un dirigeant qui vient de le respecter. Et c'est des réalités, on peut pas tout faire sauter. Comment tu peux expliquer que pour protéger son pays, il doit se retrouver à rentrer dans une église? Mettez-vous dans la tête de ce policier, le soir il rentre chez lui. Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Il rentre dans une église. Alors bon, peut-être me dira, il fera le vide.
C'est dans le cadre de son travail.
Oui, mais d'accord, non, sachant, à Jérusalem. Passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas, je suis désolé. Ça passe pas.
C'est l'accent de...
Ça passe pas. Je sais pas si vous avez remarqué, je l'ai dit Shabbat, que quand il y avait eu Chirac, quand il était venu, dans les années 90, il y avait eu deux drames qui s'étaient passés. Le drame qui s'est passé, là, You want me to go back to my plane, bon, d'accord. D'accord. Et il y avait aussi, quand il voulait rentrer dans cette même église.
Chirac.
Ah bon. Il voulait pas rentrer. Il a dit, j'attends.
Oui.
Pourquoi? Parce qu'il a dit, je veux pas rentrer tant qu'il y a des gens en armes à l'intérieur. C'est qui ces gens en armes? Les gens en armes, il les appelait comme ça, les gens en armes. C'est qui les gens en armes? C'est l'armée.
Oui.
Donc il a demandé que l'armée sorte de l'église. Alors bien sûr, quand tu vois ça à l'envers, tu dis, ah, il croit qu'il est que chez lui, qu'il n'a pas de compte à rendre. D'abord, il est chez lui, d'accord, qu'il n'a pas de compte à rendre. Mais c'est pas comme ça qu'on voit la chose. Faut voir la chose que on a mis, on veut pas qu'un juif, un juif n'a rien à faire là-bas. C'est pas une mosquée, c'est une église. C'est la Touma. C'est grave. Donc on voit comment Akadosh Baruch Hu, on voit comment Akadosh Baruch Hu est présent partout. Je vous disais, c'est pas rien ce qui s'est passé. Autant de dirigeants viennent.
Quoi? Il a envoyé Macron pour faire sortir un juif d'une église.
Écoutez, c'est écrit dans Michelet, le proverbe, c'est écrit Lev Mlachim Vesarim Beyad Hashem, que le cœur des rois et des princes sont dans la main d'Hashem. Ça, c'est écrit clairement. Rabbi l'a dit plusieurs fois, ça. Ouais. Quand il y avait, par exemple, une fois, il y avait un dirigeant israélien qui est venu pour demander conseil, pour demander une bracha avant d'aller à Washington. Le Rabbi, il a dit, c'est vous qui allez décider, parce que eux, c'est déjà décidé par un Kadosh Baruch Hu. Eux, c'est très important, il faut comprendre ça. On va parler du Rabbi aussi ce Shabbat. Un non-juif, il a le libre arbitre seulement tant qu'il n'a pas accès à une fonction particulière. Mais dès qu'il a accès à une haute fonction, on lui ôte son libre arbitre. Il a un prince en haut qui lui dit ce qu'il doit dire.
Bien sûr.
Ce qui se passe, bien sûr, mais il représente la France.
Bah oui, déjà.
Peu importe qui lui il est. Oui, ça ne me dérange pas qui lui il est.
Pour là-haut, c'est une marionnette.
Mais il représente un pays. Il a un sar.
Macron, c'est Hachem qui l'envoie.
Mais bien sûr.
Bah oui. Il est guidé par Hachem.
Il est guidé par Hachem, évidemment, il n'y a pas de question dessus. Comment tu expliques qu'il a une grève ici? Bon, je préfère politique maintenant, mais il a une grève ici pendant deux mois, il dit pas un mot.
Et là-bas, bon.
Et là-bas, il est là, mais c'est pas à lui de parler, c'est les gars de sécurité de faire ça. D'accord? Il est là, il fait le mariole, il se rabaisse.
Ouais.
Il se rabaisse, il a fait le mariole. Qu'est-ce qui s'est passé?
D'ailleurs, il a perdu son accent. On dit qu'il parle très bien anglais. Hein. Ouais, c'est ce qu'il disait.
Mais il a perdu son
rôle. Il a perdu ses moyens à ce moment-là.
Mais il a perdu. C'est pas son rôle de faire ça. Lui, il reste dans sa voiture. Il attend que ces choses se passent. Qu'est-ce qu'il fait? Seulement, le cœur.
Il en fait bouger.
Bien sûr.
Il en fait bouger.
Tout ce qui se passe, en plus, c'est Yerushalayim. Yerushalayim, Mirakodesh. Combien il y avait de dirigeants? 56, 53, quand ils étaient?
47.
Plus, il y en a 50. Le roi, il n'y a jamais eu autant que tu te rassembles à Yerushalayim. C'est une des prophéties messianiques. C'est une des prophéties messianiques. C'est écrit que les nations se rassembleront en Israël. C'est écrit clairement à Yerushalayim.
Bon, alors,
je suis pas prédicateur.
J'ai une question. Tu disais tout à l'heure, quand Dieu il vient comme ça, il donne un signe, il y a une satisfaction et tout. Comment se fait-il que quand il y a un couple qui va s'unir, et là pour le coup ils vont faire selon ce qu'ils demandent. Normalement, quand ils sont bien mariés, pas de problème, ils n'ont pas d'enfants, alors qu'ils doivent procréer. Comment ça se fait qu'ils les empêchent de procréer à ce moment-là? Alors c'est une.
Ils les empêchent pas,
ce que je veux dire ou quoi?
J'ai compris.
Parce que là ils font vraiment la demande de Dieu.
Oui,
ils devraient.
Ce qui est pire, c'est toutes les matriarches qui, elles, étaient.
C'est un détail, ça. C'est qu'il faut. Surtout, une personne qui fait la volonté de Hachem, qui tombe malade, une personne qui éduque ses enfants comme il faut, ils sortent mal. Tout pourront remettre en question. Je comprends la question. Ça, c'est le chemin d'Hachem.
D'accord.
Ok. Alors, reprenons. Donc, vous voyez, ce que je vais expliquer ici, c'est que. Leit marshavat fisa barklal. Aucune pensée ne peut saisir Akadosh Baruch Hu. Tout est calculé par Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien qui ne soit pas calculé par Akadosh Baruch Hu. C'est clair. Ok. D'accord. Donc on a dit que Dieu est caché de ceux qui sont cachés. Et c'est quoi ceux qui sont cachés? On a dit
le monde supérieur.
Okay. Yves, il a vérifié combien de dirigeants il y avait.
Non, je vais dire plus de
40. Plus de 40.
47.
C'est pas rien.
C'est pas rien.
Après, bien sûr, chacun fait de la politique. On est dans, dans le monde du mensonge, etc., 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 etc. Mais c'est pas rien.
Mais bon, plus de 40.
Je vous disais que le rabbi, justement, il disait sur ça, il disait à ceux qui allaient à Washington, il leur disait, vous avez le libre arbitre. C'est-à-dire que le rabbi considérait que tous les problèmes qu'on a en Israël, c'est pas parce que l'Amérique a imposé. Parce que eux, ils disent qu'on leur dit en haut de dire. Il y a un tsar en haut, il y a un ministre en haut qui leur dit de dire. Par contre, ce qu'un juif, il dit, un juif, il n'a pas de tsar en haut.
Ouais, alors
il y a pas, c'est lui qui dit. Ce qu'il dit, ça marche.
C'est son libre arbitre. C'est ça ?
Ouais. Après, on rentre dans une vraie question de libre arbitre, mais c'est même âge comme ça. Lève Mlachim et Sarim Biyadachem.
Il y a la suite, parce que là, il y a l'accord du siècle, hein, avec les Américains. Et là, c'est encore. C'est un gros boulevard, là.
Bon, que Dieu nous garde. Dieu nous protège.
L'accord du siècle.
Gam et Tartoni. Allez, on y va à Rabotaï. Page 106, on tourne la page.
Vraiment, ma chère, il est pas loin. Hein, je te dis.
On va faire référence maintenant au corps humain. Gam et Tartoni. Et même au sein des mondes et des êtres inférieurs. C'est bon ? Allez, messieurs, on se réveille.
On suit, là, il y a devant les ballons.
Non.
La casse.
Ah, Falgav, des Ioum, mais mal école à lui. J'y attends. Tu me dis, Rabotaï, que rien ne peut saisir Hachem. C'est faux. Parce que d'un autre côté, tu me dis aussi que Dieu, il est même allé qu'on l'a mis, il emplit les mondes. Donc s'il emplit les mondes, ça veut dire qu'il est à l'intérieur. Donc si j'attrape une parcelle de monde, donc j'attrape Dieu. Te dis dans la Morazakan. Écoutez bien, c'est magnifique, c'est l'explique. Et là on va commencer à faire référence au corps humain. Là, on y va. Là, ça va commencer à partir maintenant. Il dit, Eynok nishmat adam torgufo, she'init peset torhaguf, achemit pa'elet mekabelet shinuim et shinuyaguf et tsaharo. Ce n'est pas comme l'âme d'un homme qui se réveille à l'intérieur de son corps, qui est saisie à l'intérieur du corps, au point qu'elle est affectée et qu'elle subit les changements relatifs au corps. Mais akaot, d'un coup, au kriru, tochamimu ta'esh, ou bien du froid, du chaud, etc., est-ce qui est semblable. Ok. Il faut bien expliquer ce qu'on dit ici. Donc maintenant, si vous voulez, on va mettre de côté Dieu.
Justement, si on peut dire, voilà.
Maintenant, si vous voulez, on va mettre de côté notre relation avec Hachem. On va parler d'une chose, la relation qui est entre mon corps et mon âme. Il est évident, même une personne qui se dit non-croyant, il est évident qu'il doit accepter le fait que...
Ça va ?
Hein ? Ah, d'accord. Il est évident qu'il doit accepter le fait qu'il y a un corps et il y a une âme. Comment on voit ça ? C'est très simple. Comment tu peux expliquer qu'une même personne qui est là, il est vivant, ok ? Il a 120 ans, il est vivant. Et après, il quitte ce monde. La chair est toujours là. Les yeux sont toujours là. Le cœur est toujours là. Le cerveau est toujours là. Et ça ne fonctionne pas. Il est inanimé, exactement. En français, on dit inanimé. Donc, appelle ça âme, appelle ça vie, appelle ça ce que tu veux. Mais il y a quelque chose. Au-delà de l'aspect charnel, de l'aspect physique, il y a quelque chose derrière. Tout le monde te dit ça. Ça veut dire que par exemple, voilà, c'est pas que mécanique. C'est vrai que par exemple, tu dis le cœur c'est une pompe. C'est une pompe. Même si c'est une pompe, mais c'est pas que mécanique. C'est-à-dire que des fois on essaye, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas ? Parce qu'il faut une âme, il faut une vie. Et ça, la vie, il y a que Hachem qui peut la donner.
Oui, à la rigueur, tu pourrais, pourquoi pas, remettre une pompe à la place.
Ah oui, genre, tu, voilà, exactement.
Mais quand tu passes à quelqu'un de manière artificielle,
c'est ce qui se passe, effectivement. Après, reste la question, comment le définit cette personne ? C'est une autre question. Mais je reviens à notre sujet. Donc, il est clair que chaque personne a un corps et une âme. Allez, messieurs, vous êtes quoi ? On se concentre. Un corps et une âme. À quel point le corps et l'âme sont liés ? Par exemple, si maintenant, avec mes yeux, je suis en train de vous voir, il y a un organe qui s'appelle œil qui vous voit. Mais c'est pas que cet organe qui voit. C'est que derrière, il y a une âme. Et dans mon âme, il y a des compartiments. Il y a un compartiment qui s'appelle vue. Et ce compartiment de mon échama correspond à l'œil. C'est pour ça, des fois, vous allez par exemple voir un docteur. Des fois, les gens ont des problèmes dans les yeux. Ils vont voir le docteur. Le docteur lui dit, monsieur, votre œil n'a pas de problème. Je vois pas le problème. Mais concrètement, le gars dit, j'ai un problème, je vois pas. Des fois, il y a une personne. Il a pris un coup de boule. Son œil est défiguré. Son œil est plus là. Bon. Donc, il y a deux options. Des fois, la lacune est dans l'âme, c'est-à-dire que dans l'âme, il n'y a pas la partie dans l'âme qui correspond à la vue n'est pas là, ou elle est endommagée. Et là, c'est un problème spirituel. Ou des fois, le problème est mécanique, c'est physique. C'est-à-dire que l'âme, elle envoie, mais il faut quelque chose pour capter le signal. S'il n'y a pas de membre pour capter le signal, ça ne marche pas.
C'est forcément mécanique.
Pas forcément mécanique, non ? Des fois, l'œil.
Je ne suis pas spécialiste dans mais.
Non, c'est pas forcément mécanique. Des fois, des gens qui ont les membres, par exemple, qui sont bien, bien formés, etc. Ça marche pas, ça fonctionne pas.
Non, mais ça, c'est... Oui, mais il y a bien, c'est parce qu'il y a un lien qui...
Alors, bien sûr, alors, comment on va t'expliquer? Justement, au lieu de dire le mot âme, on va dire système nerveux. C'est bon, mais ça change rien, c'est la même chose. Système nerveux, c'est quoi système nerveux? Système nerveux. On a mis un mot, c'est tout. C'est quoi système nerveux? C'est qui système nerveux? Il y a un moteur qui s'appelle système nerveux. T'as un V6, t'as un V12,
c'est l'énergie qui véhicule.
Donc c'est l'énergie. C'est quoi cette énergie?
C'est
l'aneshama. C'est ça? C'est quoi alors?
C'est l'énergie, c'est l'aneshama.
Appelle ça le cerveau, appelle ce que tu veux. C'est l'aneshama. D'ailleurs, c'est écrit, le Zohar il te dit que le quartier général de l'aneshama est dans le cerveau. On sait aujourd'hui en médecine, on sait aujourd'hui que le cerveau, c'est l'élément l'élément principal du corps, celui qui maîtrise tout. Ça, le Zohar le dit déjà. C'était impensable jusqu'à il y a un siècle. On le sait, c'est écrit. Okay. Donc il y a une symbiose parfaite entre le corps et l'âme. Et la symbiose parfaite fait que les choses fonctionnent. Si ma main arrive à bouger, c'est qu'il y a un membre au Hashem qui fonctionne, avec un organe, avec des veines, avec des phalanges, je sais pas comment on appelle ça, etc., avec des nerfs. Et d'un autre côté, il y a une énergie qui est envoyée. Et l'énergie arrive à arriver jusqu'à la main, d'accord, aller-retour, etc. Donc, le cerveau, le système nerveux, donc c'est l'âme, envoie un signal, ça capte. Très bien. Maintenant, la question est la suivante. À quel point il y a un contact entre le corps et l'âme? Exemple. Imaginez, par exemple, que je vais le faire devant vous, je vais me pincer. Légèrement. Donc là, je ressens une douleur. Maintenant, qui ressent la douleur?
Le cerveau.
On va réfléchir ensemble.
Le cerveau. Le corps. La main.
C'est le cerveau qui envoie le signal.
Pas seulement ça. Pas seulement ça. J'ai deux questions. C'est d'abord qui ressent la douleur et à quel endroit je ressens la douleur. Parce que si tu me dis que c'est le cerveau qui ressent la douleur, normalement quand tu me pinces la main, j'en dirai mal à la tête.
Il l'enregistre.
Pourquoi quand tu me pinces la main, j'ai pas mal à la tête? Parce que l'organe en soi, c'est rien. Tout se passe ici. Pourquoi quand tu me pinces ici, j'ai pas mal à la tête, j'ai mal ici? Comment t'expliques ça?
Ça va et ça vient, flac.
Alors qu'est-ce qu'il dit Michel? Alors Michel, action, il dit, Michel, réaction. Il a une solution intéressante, médicale. Michel, il dit, voilà comment ça se passe.
Action, réaction.
Voilà, non, mais, tiens, je pense. David, tu entends?
Réaction.
Michel, il dit comme ça. Je vais la faire à la Michel. Enfin, je vais au bout de votre idée. Il dit, voilà ce qui se passe. Quand tu pinces la main, le cerveau, il réalise que tu as pincé la main. Donc, la main, elle envoie un signal au cerveau, lui dit, j'ai été pincé.
J'ai été touché.
Le cerveau, il lui dit à la main, si tu as été touché, tu dois avoir mal. Et donc, il a mal, parce que le cerveau le dit. Et là, tu dis aïe.
Ouille.
Pas mal.
Ouais.
C'est... Moi, j'ai plus simple.
C'est comme le cas de quelqu'un qui est amputé, par exemple, il pourrait très bien ressortir comme quoi
c'est
la main du gratte, alors qu'il
n'a
plus la main.
Il ressent le bout de la sensation.
Il est emmerdé pour
tout le monde. RZOVED, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne?
David, t'es là? Une petite pomme, une petite banane? Oui.
Ça le gratte, il n'a plus la main.
Comment ça fonctionne? Alors, la chassiloute va plus loin. Et médicalement, ça passe aussi. La chassidoute te dit comme ça. Elle te dit en fait, il y a une symbiose parfaite entre le corps et l'âme. Et la symbiose est tellement bien faite que chacun ressent ce qui se passe chez l'autre. Ça veut dire, lorsque le corps a froid, l'âme aussi a froid. Pourquoi? Pas parce que le corps a dit à l'âme j'ai froid, et l'âme a dit ah tu m'as dit que t'as froid donc j'ai froid. Non, c'est plus simple que ça. C'est qu'ils sont tellement liés, tellement imbriqués l'un dans l'autre,
c'est un vaste communicant.
Que quand l'un a froid, automatiquement, l'autre ressent le froid. Il ressent la froideur. Alors, il donne des exemples ici. Il dit par exemple, lorsque le corps a mal, l'âme a mal. Lorsque le corps reçoit un coup, l'âme reçoit un coup. Lorsque le corps a froid, l'âme a froid. Lorsque le corps a chaud.
Mais c'est une fusion.
Oui, justement, mais je comprends fusion.
C'est pas une fusion.
Mais jusqu'où va la fusion?
Non, c'est pas là.
Non, c'est pas du tout.
C'est pas l'autre, non, c'est une fusion.
Est-ce que tu peux dire ça par exemple la même chose pour ta femme, là, pour un enfant? Est-ce que tu peux dire que tu fusionnes avec quelqu'un au point que quand il a mal, c'est toi qui as mal?
Non, mais c'est un vaste communicant.
C'est
un circuit fermé.
On a dit, le Rav Ariel Levin, qui était le Rav des prisonniers à Yerushalayim, je réponds à ta question.
Circuit fermé.
Une fois sa femme, elle a mal au pied, il est parti voir le docteur avec sa femme. Le docteur connaissait le Rav, il a dit, Rav, qu'est-ce qui vous amène? Il a dit, le pied de ma femme nous fait mal.
Tiens bon.
Nous fait mal.
Bah oui, parce que moi je l'entends râler tous les jours.
Non, mais c'est pas Stam, il a pas, c'est pas Stam Galant, tu vois. C'est pour ceux qui l'ont connu.
C'est un corps étranger.
C'est ma femme. Moi je l'entends râler.
C'est pas un beau parleur, c'est sérieux.
C'est un corps étranger, c'est pas.
C'est sérieux.
Si sa femme est malade, lui aussi.
Quel point ils sont liés.
Non, il a pas dit ça.
Ouais, enfin, c'est ça que ça veut dire.
Il a pas dit ma femme. Il a pas dit qu'il est malade.
Depuis ma femme, quel rapport?
Il a dit que quand tu es malade, tu as mal. Alors quand tu vois une personne à laquelle tu es lié qui a mal, tu as mal toi aussi.
Ah, voilà.
T'es pas malade.
Tu ressens.
Techniquement, t'es pas malade. Mais le mal peut se transmettre.
Psychologique.
Ouais.
Et donc le corps et l'âme sont tellement imbriqués l'un dans l'autre que l'un ressent ce qui se passe chez l'autre. Et pareil, ça va dans l'autre sens aussi. Quand l'âme va mal, le corps va mal. Des fois les gens, bien sûr, des fois l'âme elle est pas bien. Mais je vais vous expliquer. L'âme elle est pas bien. Elle en manque de quelque chose. Elle en manque de spiritualité. Et le gars il est déprimé.
Vague à l'âme.
Son corps est déprimé, il est pas bien, c'est-à-dire son cerveau n'a pas fonctionné. Mais quel rapport entre les deux? Ouais. Même s'il avait un problème, laisse tranquille le corps. Ça repoit que son cœur va plus vite ou va moins vite. Il est crispé. Comment tu expliques ça? Qu'il y a une réaction physique pour un problème psychique, pour un problème de la neshama, un problème spirituel.
On le voit parce au niveau que, des autistes. Ça.
Bien sûr, on le voit partout. Non, mais même, nous tous on le voit. Chez les autistes, c'est plus marqué. Parce que, effectivement, chez les autistes, il y a presque pas de séparation entre le corps et l'âme. Donc, le corps, si tu veux, quand il s'exprime, il exprime directement ce que l'âme pense.
Il n'y a pas de filtre.
D'accord? Il n'y a pas de filtre. Nous, on met un filtre, mais ça ne change pas que c'est la réalité. Donc, ça veut dire, quand tu réfléchis, tu dis, le corps et l'âme sont tellement liés au point que l'un ressent ce qui se passe chez l'autre. C'est pour ça que avant le Baal Shem Tov, il y avait des gens qui se mortifiaient. Qui allaient dans des fourmilières, des choses comme ça, pour faire souffrir, en disant, puisque mon corps m'empêche de servir à Kadosh Baruch Hu, donc je vais faire souffrir mon corps, hein. Comme ça, hein, je veux mieux servir Hachem, je vais laisser ma Neshama parler. Pour ça, le Baal Shem Tov s'est opposé, s'est insurgé contre ça. Et le Maguid Meserich a expliqué, le Maguid Meserich a expliqué sur ça, hein, qu'un petit trou dans le corps, c'est un grand trou dans la Neshama. Ça, il a dit. Et d'ailleurs, c'est un Zohar qui dit ça. Le Zohar, il dit, d'accord? Le Zohar, il dit qu'il y a une relation entre la santé du corps et la santé de la neshama. C'est pour ça que si tu expliques, des fois tu vas voir un tzaddik. Une personne va voir un tzaddik pour une maladie. Le tzaddik va lui dire, monsieur, mettez les téphilines. Quel rapport entre les téphilines et la maladie? Alors tu peux expliquer qu'il n'y a pas de rapport. C'est Stam un rapport qui a été fait, un circonstanciel qui a été fait par le tzaddik. Et le tzaddik, il a dit, rajoute un mérite et tu t'enlèveras. Mais c'est pas vraiment comme ça, parce qu'on voit des fois que pour certains domaines, on va te donner telle mitzvah, pour deux domaines, telle mitzvah. Et le Zohar, il dit que chaque membre a une mitzvah qui lui correspond. Alors, nous, on n'est pas des professionnels, on ne sait pas à quoi ça correspond, mais chaque membre de mon corps a une mitzvah qui lui correspond. Et c'est pour ça que quand il y a un membre qui est déficient, il faut chercher quelle est la mitzvah qui correspond. Et quand tu t'améliores dans la mitzvah qui correspond, automatiquement, physiquement, le corps reprend des forces de ce membre-là. C'est-à-dire que là, on voit clairement la symbiose qu'il y a entre deux secondes. On voit clairement la symbiose qu'il y a entre le corps et la neshama. Ils sont imbriqués l'un dans l'autre. Okay. Maintenant, ils sont imbriqués l'un dans l'autre. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on pourrait dire la même chose par rapport à Kadosh Baruch Hu? Parce que tu me dis que Dieu s'habille dans le monde. Est-ce que Dieu s'habille dans le monde de la même façon que la neshama s'habille dans le corps? Si c'est le cas, ça veut dire que Dieu ressent tout ce qu'on ressent, ça c'est bien. Mais ça veut dire aussi quelque part, qu'on peut changer quelque chose en Dieu. On peut le saisir. Je peux saisir ma neshama. Quand je fais mal à mon corps, je fais mal à ma neshama, donc j'ai saisi ma neshama d'une certaine façon.
Et donc,
est-ce qu'on pourrait dire la même chose pour Dieu? Qu'on dise que Dieu ressent tout ce qu'on ressent, c'est très bien ça. Et c'est vrai que Dieu souffre avec nous. Quand tu souffres, il souffre avec toi. Quand t'es content, il est content avec toi. Et quand Dieu il est content, ma neshama elle est contente. Et quand ma neshama elle est contente, mon corps il est content. Des fois tu te lèves un matin, t'es content, c'est pas pourquoi. Des fois tu te lèves un matin, t'es pas bien, c'est pas pourquoi. C'est pas pourquoi, c'est pas bien. D'accord, c'est pas pourquoi. Tu vois, c'est le docteur, il dit, monsieur, vous allez bien. T'as rien du tout. Il dit, prends attention, tout va bien. Il dit, mais je suis pas bien. Il faut des fois vérifier ce qui se passe dans les chamas. Des fois, des gens comme ça, ils ont des coups d'angoisse comme ça qui leur durent pendant des semaines et des mois. Et après, dès qu'ils se reprennent dans la Torah, c'est parti. C'est-à-dire qu'il y a une symbiose entre les deux. Seulement, comme on va expliquer tout de suite, et je vais faire une pause, la question est, jusqu'où va cette symbiose dans la neshama? Et est-ce que c'est la même symbiose qu'il y a entre Dieu qui serait la neshama du monde et le corps qui serait, enfin, et le monde qui serait le corps du monde? Vous me suivez? C'est-à-dire que Dieu et le monde seraient comme la neshama et le corps. Si on dit que c'est à 100% comme la neshama et le corps, on a un problème. Ça voudrait dire que on peut saisir Dieu et ça veut dire qu'on peut changer quelque chose en Dieu. On peut lui faire mal. Est-ce que je peux faire mal à Dieu? Qui sent que j'ai mal, c'est une chose, mais est-ce que je peux faire mal à Dieu? Ou est-ce que je peux... Bon, Michel a une question depuis tout à l'heure. Allez-y.
Pourquoi pas,
j'avais lu dans le Malchut comme quoi disait que le corps et l'âme étaient deux choses bien distinctes, que chacun voulait partir à son essence.
Oui.
C'est-à-dire un qui voulait partir vers le haut et le corps vers le bas.
Bien sûr.
Comme une bougie.
Bien sûr.
D'accord. Oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas là.
Alors, oui, mais
ils sont compatibles, ils sont bien. Mais il y en a un qui veut reprendre sa place initiale.
Bien sûr. Mais c'est comme dans un couple.
C'est
comme dans un couple. Vous pouvez avoir un homme et une femme qui sont mariés jusqu'à 120 ans.
Comme une bougie.
D'accord.
La cire, elle part d'un côté, la flamme, elle repart.
Oui, mais c'est pas une question. Parce que l'homme est comparé à la neshama, la femme est comparée au corps. D'accord. Tu peux avoir un homme et une femme dans le même couple qui ont des points de désaccord très profonds et qui les garderont jusqu'à 120 ans. Ça ne les empêche pas de travailler ensemble, d'éduquer ensemble leurs enfants, de construire leur propre vie ensemble, parce que la vie d'un couple ne se limite pas qu'aux enfants, c'est autre chose, d'accord? De construire, bien qu'ils savent pertinemment qu'ils ne sont pas d'accord dans beaucoup de domaines.
Mais à la finalité, ils veulent qu'ils restent ensemble.
Pas vrai.
C'est ça que je veux
bien
dire.
Bien sûr. Mais
à la fin.
Mais justement, s'il est comme, si tu te maries avec quelqu'un qui est comme toi, c'est un mariage homosexuel, ça. Je m'excuse du terme.
Bah ouais.
Si tu te maries avec quelqu'un qui est comme toi, c'est où le mariage? T'as rien marié ici.
Le corps et l'âme, c'est pas marrant,
que t'as rien marié. Qu'est-ce que t'as marié? T'as pris du plastique, t'as pas marié. C'est pas un mariage, ça.
C'est l'eau et le feu qu'on veut faire.
Un vrai mariage, c'est quand tu prends deux éléments qui, de base, ne sont pas compatibles, et tu les maries.
Il les a fait marcher, hein.
Mais bien sûr.
La grêle avec le feu, il les a fait marcher.
Oui.
Qu'est-ce qui gênerait dans cette idée, magique que Dieu pourrait ressentir, ou que, pas que nous, on ait une action, mais même dans le système de Dieu, qu'est-ce qui pourrait gêner, finalement, que Dieu serait, pourquoi pas...
Très bien, bonne question. C'est très simple. C'est que l'aneshama change par rapport au corps. Ça veut dire que si, par exemple, le corps pousse l'aneshama dans une direction, une direction charnelle ou une direction spirituelle, l'aneshama suit. Et pareil, le corps suit l'aneshama, l'aneshama suit le corps. Il y a toujours un qui est plus fort que l'autre, et qui va décider? C'est moi, l'être humain. Mm-hmm. Qui va décider à qui je vais donner le plus de pouvoir dans mon être. Est-ce que je vais donner le plus de pouvoir à mon aneshama ou à mon corps? C'est moi qui décide. Maintenant, selon la direction...
Quand tu dis c'est moi, c'est une troisième
bien sûr,
force.
Évidemment, moi c'est mon libre arbitre.
C'est la troisième force.
Moi c'est pas mon aneshama, moi c'est ma volonté.
Et c'est pas mon corps.
Non.
Ou c'est pas mon aneshama.
Ni mon corps, ni mon aneshama, c'est moi. C'est mon être, c'est mon libre arbitre. Qui n'est pas mon aneshama.
Qui n'est pas mon aneshama, qui n'est pas mon corps.
Autre chose, c'est ma volonté. C'est mon moi.
Donc il y a un bout de Dieu en moi.
C'est l'un ou l'autre qui est en train de
mener.
C'est pas une troisième entité qui est.
Oui, si tu veux être plus cartésien, si tu veux, c'est une parcelle de Maneshama, mais c'est pas la parcelle classique de Maneshama. C'est-à-dire que dans Maneshama il y a deux aspects. Il y a l'aspect essentiel de Maneshama qui est ma volonté, qui est très très profond. Et après il y a toutes les expressions. Toutes les parcelles spécifiques de l'aneshama, ce qui est relié à la vue, ce qui est relié à la réflexion, ce qui est relié à lui, ce qui est relié... Chaque partie de l'aneshama, enfin, chaque membre du corps a une partie de l'aneshama qui lui correspond. Voilà. Et c'est vraiment comme ça. D'ailleurs, on le sait même physiquement. Quand Dieu préserve des gens qui ont des déficiences dans des membres, qu'est-ce qui se passe? On sait que les autres membres vont se battre pour compenser. Par exemple, s'il n'a pas la vue... Chas v'shalom. Alors, Hachem va faire que les autres sens vont compenser, bien sûr. L'odorat, lui. Et qui fait ça? C'est l'aneshama qui fait ça. C'est qui alors? Le corps, c'est le même. L'oreille, c'est la même oreille. C'est pas une nouvelle oreille.
Il va pas développer.
Il n'y a pas une nouvelle oreille qui est venue ici. Seulement, l'aneshama, elle a mis plus de puissance. Comme dans un moteur. Le moteur, c'est le même. T'as pas changé de moteur.
Oui, mais c'est la parcelle de l'aneshama qui est reliée à l'oreille, par exemple.
Exactement.
Pas toute.
Oui,
la...
oui.
Pas
alors après, voilà, les gens appellent ça système nerveux, vous appelez ça. Oui. C'est des mots, ça. C'est des mots. Je peux vous faire un cours entier sans parler de Dieu. Vous parlez d'énergie, de puissance, etc. Et que quelqu'un qui va venir ici, il ne va pas savoir qu'on parle de Dieu. C'est plus.
Et alors, quand on a mal à notre corps ou notre âme, Dieu n'a pas mal en tant que nous?
Alors, ça, c'est la question. Il vient poser la question, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça dérange?
Parce
que ça dérange. Très simple.
C'est
que si tu dis que Dieu s'habille dans le monde de la même façon que l'aneshama s'habille dans le corps, ça veut dire que Dieu subit des changements. De la même façon que ma aneshama subit un changement par rapport à mon corps. Si, écoute bien ce que je viens de dire. Ça veut dire que concrètement, ma aneshama, elle a un point de départ et un point d'arrivée. D'accord? Le point de départ, c'est comment j'étais quand je suis né. Et le point de départ, c'est ce que je suis devenu. Comment tu étais devenu? D'accord? Maintenant, ça peut être en bien comme en mal. Mais ce qui est clair, c'est que l'aneshama change. Elle garde toujours son attachement avec Hachem, ça on ne pourra pas lui enlever. Mais elle évolue, en bien ou en mal. Elle change. Elle se salit, elle se purifie, elle change.
Elle lui appartient.
Et on la change littéralement. C'est pas juste une expression. Tu la changes. Tu changes la Neshama. Donc si tu dis que Dieu s'habille dans le monde de la même façon que la Neshama s'habille dans le monde, s'habille dans le corps, ça voudrait dire que Dieu peut subir des changements. Ce qui est impossible. Je ne peux pas faire subir aucun changement avec Hachem.
Bouge pas lui, bouge
pas. Parce que Ani Hachem le Shaniti, Dieu est inaltérable.
C'est nous qui bougeons.
Mais d'un autre côté, on te dit bien que Dieu emplit les mondes. C'est-à-dire que il emplit les mondes,
donc il emploie.
Et c'est ça ce que le Zohar veut te dire, c'est que on peut pas, lui il peut tout saisir, mais nous on peut pas le saisir.
Lui il peut tout englober, nous.
Et donc c'est pas logique, parce que normalement si tu me dis qu'il emplit le monde, donc ça va dans les deux sens. C'est comme si tu me dis, je suis en symbiose avec quelqu'un, mais lui il n'a pas d'influence sur moi. Oui. Ben, papa, t'es pas influencé, tu l'influences pas, tu domines.
Il est en moi.
Tu le domines. Il n'y a pas de symbiose, c'est pas une symbiose ça, non. C'est une domination. Seulement non, à quel âge dit non, il y a une symbiose. Je vous laisse faire. Mais d'un autre côté, ne pensez pas que quand vous changez quelque chose, vous pourrez changer quelque chose en moi. Je sens ce que vous sentez. Très important ça. Très très important de comprendre que tout ce qu'on passe, Hachem sent ce qu'on passe. C'est connu ça chez les chassidim. Ouais. Là je parle pas d'Hachem, je parle même d'un rabbi. On s'approche de Yudjvat. C'est connu chez les chassidim que tout ce qu'un chassidim passe, son rabbi le ressent. Est-ce que ça veut dire que son rabbi peut l'aider? En général, lui, des fois non. Mais le fait même de savoir qu'il y a quelqu'un qui vit ça avec toi, qui sent ce que tu ressens, c'est déjà quelque chose de très fort. On peut sentir ça des fois aussi avec, voilà, avec son conjoint, avec un parent, etc., ou avec un ami. Le fait même de sentir que quelqu'un sent ce que tu sens, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire.
Ouais, c'est
déjà...
C'est rassurant, apaisant.
C'est apaisant. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il a réglé ton problème? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il t'a changé ou tu l'as changé? Non. Mais il t'a ressenti. Ça, on peut dire pour Hachem.
Mais il y a des millions...
Ça, on peut dire pour Hachem, que Hachem ressent tout ce qui m'arrive.
Il y a des millions de gens qui sont malades en même temps.
Oui.
Et Hachem, il ressent les millions de gens en même temps.
Bah, mais attends, c'est un gros ordinateur. Bien sûr, ouais. On est en binôme avec lui ou pas?
Bah, bien sûr. C'est où est la question?
Attends, j'appuie sur un bouton en un clic. Il
paraît difficilement.
Mais Dieu n'est pas un homme, Charles. Quand même, ouais. Tu compares Dieu à un homme?
Non, non.
Dieu l'a créé le.
À qui pour et en deux minutes.
Dieu, il n'a pas besoin des supercalculateurs. Vous savez qu'aujourd'hui, d'ailleurs, est-ce que vous savez la masse d'informations que j'ai aujourd'hui, les supercalculateurs?
Quel milliard,
c'est même pas le mot milliard. Tous les quelques mois dans les revues informatiques, on dit qu'il y a un nouveau supercalculateur qui est sorti. Parce qu'ils arrivent à associer les ordinateurs, ils les mettent en rack comme ça, en rack ça veut dire en série, d'accord. Et ils vous mettent comme ça,
Bitcoin.
200, 500, 1000, 2000, etc. Et les Chinois sont très forts dans ça d'ailleurs. Et tous les quelques mois, tu te dis, on a dépassé encore un nouveau record, Et on monte. La masse d'informations qu'on peut gérer aujourd'hui. Ça veut dire que aujourd'hui, le problème n'est pas de gérer les informations. Aujourd'hui, c'est de traiter les informations. Il parle beaucoup de big data. Vous avez entendu parler de big data? C'est ma vache ça. C'est quoi big data? Big data, ça veut dire qu'aujourd'hui, les informations sont là. Vous allez par exemple au supermarché. Franprix. Vous allez acheter un produit. Quand vous allez acheter une carotte, ok. Vous allez payer avec votre carte bancaire. Donc on peut vous tracer avec votre carte bancaire. Même si vous n'avez pas de carte de fidélité, on peut vous tracer parce qu'on connaît votre carte bancaire. Il y a un numéro dans votre carte bancaire. Donc la prochaine fois que vous allez revenir, on sait que celui qui a acheté une carotte...
que t'aimes les carottes déjà.
D'accord. Et on sait qu'il aime les carottes. Et on sait aussi qu'il aime les choux. On sait qu'il aime les tomates. On sait qu'il aime le jus d'orange. On sait qu'il aime le coca. Donc on fait un profil. On dit a priori, ce monsieur-là, il doit avoir environ entre 30 et 40 ans. Et on se trompe pas.
Un lapin qui vient chez
Franck. D'accord.
Au rayon carotte.
Parce qu'après, en plus,
bah oui, d'accord. Bah oui.
Non,
la question n'est pas quelles sont les données qu'on a. Parce que les données sont là.
Il y a un marché.
Chaque chose que vous faites aujourd'hui, vous allez marcher dans la route que vous allez faire ce soir pour rentrer jusqu'à chez vous, à pied. Vous allez être fliqué par je ne sais combien de caméras qui vont vous voir. Mais la question n'est pas est-ce qu'ils vont vous voir. Vos données seront quelque part écrites dans le monde. Ça va être, il y aura votre photo qui sera photographiée, je ne sais pas combien de dizaines ou centaines de fois. En 5 minutes que vous allez marcher. Mais personne ne va rien faire. Parce que personne n'est intéressé par vous, à moins que vous êtes un agent secret du Maroc. Ça, c'est...
On va lui faire le coup du lapin.
Là, ça ne se dit pas. Hein.
Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, alors reprenons notre histoire. Ça veut dire que les données sont là, mais on ne sait pas les traiter. Et c'est pour ça qu'aucun supercalculateur pourrait être comme Hachem. Parce que Hachem, c'est pas seulement qu'il les donne, il les traite. Et ça, on peut pas, nous. C'est-à-dire, nous, plus on a d'informations, et plus on est dans la complexité d'arriver à les traiter et d'arriver à les faire parler. On a des informations. Mais faire parler les informations, créer des schémas, écrire, dire ça, ça veut dire ça. Oui, mais plus on y arrive et plus on a des données et plus on comprend que c'est encore plus loin.
L'analyse des données.
Exactement. Alors, dites-vous que Kadosh Baruch Hu, il n'est pas limité par ça.
Data science.
Ce qu'on dit dans le Rosh Hashanah, dans les Tfilot Rosh Hashanah, on parle beaucoup de Omek Adin. On parle de la profondeur du jugement. Profondeur. Il n'y a pas de limite à la profondeur. Parce qu'un juge, quand il va donner un jugement, même s'il est profond, il y a des limites où il peut aller dans sa profondeur. Il va prendre le cas, il va l'analyser, il va questionner les témoins, il va questionner les accusés, il va questionner les prévenus, il va questionner tout le monde. Il va rentrer dans les profondeurs, il va prendre 10 ans pour donner son verdict. Mais il y a une limite à quelle profondeur il peut rentrer. À un moment, il a touché le fond, c'est fini. Il ne peut pas aller plus loin. Chez Akadosh Baruch Hu, Romek a dit, la profondeur du jugement. C'est avec quelqu'un qui veut faire ça. La profondeur du jugement. Profondeur, profondeur, profond, profond. Tu ne peux pas aller plus profond. Moi, l'être humain, même si je vais aller profond, il y a une limite à quelle profondeur je peux aller. Même si je vais percer la planète, je vais percer, à un moment, c'est fini. J'ai atteint le fond, c'est fini. J'atteins le magma, c'est terminé. C'est, j'ai atteint le fond. Mais chez Hachem, oh mec, il rentre dans la profondeur. C'est ça, ce que j'ai en train de dire. Donc d'un côté, qu'est-ce qu'on nous dit? Hein? Qu'est-ce qu'on nous dit d'un côté?
On dit merci.
D'un côté, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est partout. D'un côté, on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il emplit le monde. De la même façon, et d'ailleurs, c'est une image qui est utilisée, que le Midrash nous dit. Ma anefesh me mal'a et agouf. De la même façon que l'âme emplit le corps. Autant qu'Akadosh Baruch Hu me mal'a et olam. De la même façon, Dieu emplit le monde. Seulement, vient le Tanya, vient le Zohar. Le Tanya qui t'explique. Je te dis attention. C'est vrai qu'on a comparé la Neshama et le corps à Kadosh Baruch Hu et le monde, mais cette analogie a des limites. Quelle est la limite? C'est ne crois pas que ce qui se passe dans le monde va changer quelque chose en Dieu. Et ça, c'est très très difficile à comprendre. Parce que d'un côté, ça c'est une question pour vous, M. Benidar. D'un côté, on me dit fais des mitzvot. Donc Dieu me demande. S'il me demande, c'est qu'il en a
besoin.
Et d'un autre côté, le roi Salomon, il dit Im tzadakta matitenlo. Si tu as fait une mitzvah, qu'as-tu donné à Dieu? Verabu pechaecha. Et tu as fait de nombreuses fautes. Mataselo, qu'est-ce que tu lui as fait déjà? T'as tout cassé, là. T'es dit quoi, c'est vrai? Que tu crois, t'as fait une mitzvah, tu as changé quelque chose?
Mais t'as fait une erreur derrière. Il faut la transposer.
Pas moi, pour lui. Mais d'un autre côté, il me dit, fais une mitzvah. Donc si me dit, il me donne un ordre, c'est qu'il a besoin. Sinon, problème de monde.
C'est un bien qu'on fait à la Neshama.
Oui, mais c'est pas Dieu. Oui, mais c'est qui la Neshama? C'est Dieu.
Non, parce que la Neshama, elle est en moi, et donc ça, je la ressens. Si je fais du bien, je la ressens.
Ouais. Voilà, en tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que c'est déjà assez complexe.
J'ai déjà donné la réponse. Non, mais pas ce que tu viens de dire.
C'est-à-dire qu'on peut parler à Dieu, on peut se parler.
Donc quoi, Dieu, finalement, il a besoin...
Trop complexe.
Non, c'est que finalement, c'est exactement le paradoxe. C'est exactement le paradoxe qu'on vient de dire. C'est qu'il s'habille dans le monde, mais il n'y a pas d'impact. Ce qui est impossible, normalement. Ça, c'est même allé. La semaine prochaine, on va continuer avec Sauvé.
S'il est en moi, je peux lui parler, alors.
C'est pas seulement que... Je vais vous titiller un peu. Oui. C'est pas seulement que vous pouvez lui parler.
Tu dois.
C'est que quand vous lui parlez, c'est Dieu qui parle. Parce que vous êtes Dieu.
Mes chers amis.
Ça fait peur. Hein. Alors,